quand on entre dans l'exposition, on entre littéralement dans une planche de bande dessinée. Donc on entre dans le village. Et dans le village, on va traiter de trois sujets qui c'est l'économie, je dirais, basique, quoi. C'est l'économie entre les gens. Donc il y a la monnaie, les échanges. Le deuxième sujet, la question du travail dans l'économie. Qu'est-ce que c'est qu'exactement le travail d'un point de vue économique? Et le troisième, on parle de la forêt, c'est-à-dire des biens, l'écologie, des biens communs qui peuvent être détruits si les acteurs économiques, par exemple, en profitent abusivement ou si les consommateurs consomment sans réfléchir. Tout ça permet une relecture d'Astérix. C'est pour ça qu'au centre de la première pièce, on a les monnaies dont on va s'apercevoir qu'il n'y a pas que des sesterces qui s'échangent en Gaule. Contrairement à ce qu'on peut croire en lisant Astérix, il y a les stratères gaulois, il y a même des drachmes grecs qui circulent en Gaule, sachant que le sesterce ne sera la monnaie de la Gaule, la monnaie unique, au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire 150 ans après Astérix. Donc au début, on est donc dans le village. Et puis on va sortir du village, et dans le village, on va rencontrer le monde romain. Et le monde romain, c'est le monde de la cité, c'est le monde de l'URPS, l'urbanisme. Et là, on va découvrir Rome, on va découvrir Lutèce. Et évidemment que dans ces espaces-là, l'économie n'est plus du tout la même. Et là, on va découvrir, par exemple, le rôle de l'État, c'est-à-dire César qui, dans Obélix et compagnie, va créer un marché complètement fictif de menhirs, sachant que les menhirs, en plus, sont même pas gaulois, ils sont celtes et inventés 7 siècles avant que les Gaulois n'arrivent. Donc, c'est l'invention d'un marché de produits qui ne servent à rien, qui vont créer une bulle spéculative qui va perturber d'ailleurs le village gaulois. Et comme toute bulle spéculative, elle se dégonfle à la fin et finalement, ces menhirs ne vont servir à rien. Et d'ailleurs, même Panoramix se demande, remarque que les menhirs, on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Et donc, on arrive dans la deuxième salle. Donc, il y a le marché l'État, hein, puisque donc il y a César qui crée son marché. L'entreprise, parce que évidemment, comme le monde romain est très grand, on installe des routes, il y a une économie d'échange dans tous les coins du monde romain qui s'installe, et avec elle, une technocratie. On découvre par exemple, précisément dans Obélix et compagnie, un énarque qui a un air de ressemblance avec Jacques Chirac à l'époque où il négocie les accords de Grenelle. Et puis la bureaucratie, par exemple, il y a cet épisode c'est dans le tour de Gaulle, je crois, où Astérix va rencontrer une véritable industrie, qui est une industrie de la roue, à Clermont-Ferrand. En fait, c'est l'allusion évidemment à Michelin. Et enfin, il y a les pirates de l'économie. C'est ça qui est amusant dans cette expo, par exemple, c'est qu'il y a un jeu où on va devoir détruire les navires pirates pour laisser passer les navires marchands. Et donc, tout au long de l'expo, il y a des activités pour les plus jeunes qui permettent d'aborder à la fois l'aspect économique, c'est pour ça qu'on est à la Cité de l'économie, mais également l'aspect historique. Pour les vraiment plus jeunes, il y a des petites activités qui permettent de chercher des indices pour composer la potion magique. Et enfin, on termine par les échanges, c'est-à-dire qu'au-delà de la cité, il y a l'Empire, et l'Empire permet des échanges avec l'extérieur. Et là, chaque séquence a son personnage totem, et là, pour cette séquence-là, le personnage totem est Epidemaïs, qui est le fameux phénicien que l'on revoit de temps en temps dans les aventures d'Astérix. Et la caractéristique du bateau d'Epidemaïs, ce sont ses associés qui rament. Et donc, ils avaient signé un contrat, ils n'avaient pas lu les petits caractères. Et donc, les associés rament. Et donc, ça se termine par un échange entre une historienne et un économiste qui, l'un et l'autre, vont parler de l'économie dans Astérix. Et notamment, on découvre dans les propos de l'historienne que Rome est un état prédateur et que donc les Romains ne travaillent pas, ils ne payent pas d'impôts parce qu'ils vivent sur l'Empire. Et c'est dû à l'esclavage, c'est-à-dire que Annie Colonia, qui est l'historienne, explique bien que en 163 avant Jésus-Christ, il va y avoir Rome va vaincre la Macédoine et ça va permettre de faire venir plus de 160 000 esclaves à Rome et dans l'Empire. Et donc les Carthaginois vont délivrer 50 000 esclaves, les Gaulois à leur tour vont également fournir une cinquantaine de milliers d'esclaves. Et donc toutes ces victoires successives qui amènent les esclaves font que jusqu'à la fin, les citoyens romains ne payeront pas d'impôts et vivent donc en état de prédation sur l'Empire. Il y a également un petit clou du spectacle qui est au début de l'exposition où les filles de Albert Uderzo et René Goscinny, Anne Goscinny et Sylvie Uderzo parlent de leur Astérix et notamment là on retrouve deux petites filles qui parlent de leur enfance et c'est très touchant.